Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui la solennité de Sainte-Jeanne d'Arc, le deuxième dimanche du mois de mai, qui est, comme vous le savez, la patronne secondaire de la France. Et Dieu sait si nous devons la prier, car la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est en bien des points similaire à celle dans laquelle elle était. En son siècle. Certes, au temps de Sainte-Jeanne d'Arc, il y avait un pape, la grosse différence. Mais politiquement, socialement, familialement parlant, je dirais, la situation est très semblable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand la situation devient chaque jour pire, quand la situation s'aggrave de jour en jour, en général, le bon Dieu attend. Incompréhensible parfois, mais il attend. On a l'impression qu'il attend très longtemps. Il attend de telle façon que, humainement parlant, il n'y a plus aucune sortie. Plus aucun moyen avec simplement les forces humaines pour quiconque de reprendre tout cela en main. Alors, lorsque la situation est complètement désespérée, le bon Dieu va aller chercher un instrument tellement faible que tout le monde est obligé de voir la main de Dieu derrière l'instrument. C'est comme ça qu'il est allé chercher ces petites jeunes filles qui ne savaient même pas parler français, qui ne savaient même pas écrire, signer avec une croix, tout ce qu'elles savaient faire. Et mon Dieu est allé chercher une petite jeune fille de 17 ans pour la mettre chef de l'armée française. Même aujourd'hui, ça ne passerait pas. Alors, première question qu'il faut se poser, je crois, c'est que puisque nous sommes dans une situation similaire, le bon Dieu risque de nous faire attendre encore un peu plus. C'est difficile de descendre plus bas que là où nous sommes déjà. Et le bon Dieu va certainement aller chercher quelque part un instrument où nous ne savons pas, quand nous ne savons pas non plus, dans quelles conditions nous l'ignorons. Alors il faut se préparer à être cet instrument. Peut-être que le bon Dieu va demander à n'importe quel d'entre nous d'être cet instrument. Peut-être que le bon Dieu va aller chercher plusieurs instruments. Nous ne savons pas. Il faut se garder d'aller poser trop de questions au bon Dieu. Il faut se préparer à être un instrument. Alors, quelle est la première condition pour être un instrument du bon Dieu? Il est évident que la première condition pour être un instrument du bon Dieu, c'est d'être dans son amitié. Et donc d'être en état de grâce. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut prétendre devenir un instrument du bon Dieu. Donc il faut que je sois en état de grâce, que je me batte pour rester en état de grâce, en état de charité, pour que justement le bon Dieu puisse m'utiliser comme il le veut, comme un instrument. C'est Sainte Bernadette Soubirous, la jeune fille qui a vu Notre-Dame de Lourdes, qui disait, un instrument c'est comme un balai. Alors, le balai, on le garde au placard à balai, c'est pas très propre. C'est tout noir, on voit rien, la poussière. Il y a des cloportes partout, il y a des toiles d'araignée partout. Ce qu'on demande au balai, c'est le clair, c'est tout. Alors le balai qui est dans son placard à balai, il peut se demander, mais à quoi je sers ici? Je fais tout noir, tout est sale, je ne sers à rien. Mais ce qui importe, c'est que le jour où le bon Dieu a besoin du balai, il faut qu'il ouvre la porte, que le balai soit là. Alors il prend le balai et il va balayer. Alors on est tout content parce qu'on sert à quelque chose. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'au bout d'un certain temps, le bon Dieu n'a plus besoin du balai, il le remet au placard. On ne comprend pas non plus, on va dire au bon Dieu, mais vous ne pourriez pas m'utiliser un peu plus souvent, je suis là, je suis à quelque chose, au moins quand je suis entre vos mains. Et on va comprendre que le bon Dieu ne demande pas d'être toujours entre ses mains, il demande à ce qu'on soit toujours dans le placard, même si on ne comprend pas. De la façon qu'il puisse nous utiliser quand il a besoin de nous. Eh bien, quel est le devoir d'un balai? Quel devoir d'état d'un balai? Le devoir d'état d'un balai, c'est de balayer correctement. Le devoir d'état d'un chrétien, c'est d'être à la disposition du bon lieu dans le placard à balai. Voilà ce qu'il faut faire. Sans poser trop de questions au bon Dieu. Parce que si on commence à poser des questions au bon Dieu, quand le bon Dieu ne voit pas les choses du tout avec le même regard que nous, on ne comprend pas en général ses réponses. On le voit très bien, par exemple, dans la vie de Sainte-Jeanne d'Arc. Très difficile à comprendre. Qui s'est passé dans la tête du bon Dieu? Pourquoi le bon Dieu est-il allé chercher Charles VII pour devenir le roi de France? Alors que ce sera un des plus mauvais rois de France. On pourrait dire, mais le bon Dieu a mal choisi. Non, le bon Dieu a bien choisi, mais c'est exactement ce qu'il fait. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Et ce qu'il faut, c'est bien dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Je pense que le grand message qui est derrière toute l'action de Sainte Jeanne d'Arc, c'est un message d'espérance. Le bon Dieu s'occupe de nous, mais il voit les choses plus loin que nous. Nous, on voit les choses simplement jusqu'au bout de notre nez, puis c'est tout. Lui, il voit plus loin parce qu'il est plus haut. Comme celui qui est en haut d'une montagne voit un champ de vision beaucoup plus grand que celui qui est en bas de la montagne qui ne voit presque rien. Et bien, c'est la même chose pour nous. Nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe et on voit très bien la crise terrible actuelle au niveau des hommes d'église. On pourrait se dire, mais combien de temps encore ça va durer? Est-ce que le bon Dieu ne nous a pas oubliés? Le bon Dieu, bien cher frère, ne nous a pas oubliés, ne peut pas oublier ces créatures, c'est impossible. Mais le bon Dieu, par contre, ce qu'il peut faire, c'est faire attendre ces créatures. Pourquoi faire attendre ces créatures? Pour obliger les créatures à se placer dans une situation de dépendance. Se placer dans une situation de totale dépendance à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'aucune créature puisse dire, c'est par mes propres forces que je vais remonter la chose. Et si nous avons suffisamment d'humilité pour comprendre ces choses-là, alors le bon Dieu va pouvoir nous utiliser comme un balai et nous utiliser pour balayer quand il le veut et pas quand nous voulons. Ainsi, la première condition pour un instrument, pour être un bon instrument, c'est d'être en état de grâce. Un instrument qui n'est pas en état de grâce sert strictement à rien. Je dis souvent, et je pense que c'est très vrai, que la première condition pour être un véritable contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce. Et qu'un contre-révolutionnaire qui n'est pas en état de grâce est un faux contre-révolutionnaire. Parce qu'il prétend être un ami du bon Dieu en étant contre-révolutionnaire, et par le démon qui règne dans son âme par le péché mortel, il prouve au bon Dieu qu'il n'est pas un de ses amis. On ne peut pas prétendre être un ami du bon Dieu si le démon est dans notre âme. Donc, en ce futur séjour de la fête de la patronne secondaire de la France, demandons au bon Dieu cette grâce d'être un instrument, d'être un bon balai. Et pour cela, d'être d'abord un tas de grâce. Et puis, bien sûr, il faut rajouter également les deux autres vertus fondamentales, d'espérance et de foi. Foi pour croire et espérance pour prier. Nous avons trois choses à faire. Croire à la toute-puissance du bon Dieu, espérer par la prière que le bon Dieu interviendra un jour, et évidemment aimer le bon Dieu par la vertu de charité. On dit, et c'est sans doute très vrai, Saint Pédis qui disait ça, que nous avons les chefs d'État que nous méritons. Je pense qu'on doit mériter chez l'État qu'on a actuellement. Donc, ne pas se décourager, mais essayer de comprendre comment le bon Dieu travaille. On pourrait se poser une question toute simple. Comment se fait-il, dans ce temps moderne, où le féminisme a tellement d'influence, comment se fait-il que tous les modernes ne prennent pas Sainte Jeanne d'Arc comme exemple? Je suis souvent posé la question, quand je rencontre des féministes qui commencent à nous attaquer, je leur dis, mais vous avez là un exemple magnifique. Prenez Sainte Jeanne d'Arc comme patronne. Ah non, surtout pas. Pourquoi non? Voyez-vous, ils veulent bien de Jeanne d'Arc. Ils ne veulent pas de Sainte Jeanne d'Arc. Et il ne faut pas oublier que c'est ça qui fait sa grandeur. La grandeur de notre Sainte Patronne, c'est précisément qu'elle est canonisée par l'Église. C'est ça qui fait toute cette grandeur, donc derrière, si les féministes actuelles ne veulent pas de Sainte Jeanne d'Arc, c'est précisément parce qu'elle est catholique. Une Jeanne d'Arc qui serait une païenne. Une Jeanne d'Arc qui aurait fait des grands faits militaires, même qui aurait bouté les Anglais hors de France, mais qui serait une païenne, n'aurait pas de problème, elle serait acceptée. Mais une Jeanne d'Arc qui est grande parce que justement elle a la foi catholique et qu'elle pratique sa foi catholique par une vertu de charité exquise, extraordinaire, celle-là, ils n'en veulent pas. Il faut comprendre que le bon Dieu, encore une fois, va plus loin que nous. Si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par le bon Dieu, nous serions tous protestants aujourd'hui. Sainte Jeanne d'Arc est morte en 1431. Exactement 90 ans plus tard, Martin Luther exposait le protestantisme dans toute l'Europe. Donc il est évident que le bon Dieu a choisi Sainte Jeanne d'Arc pour aider la France à lutter contre le protestantisme. Alors, puisque nous avons à lutter aujourd'hui contre une autre forme de protestantisme, qui est le protestantisme du modernisme, eh bien, Il nous faut bien sûr utiliser la même sainte, utiliser Saint Jeanne d'Arc et lui demander ce don de force qu'elle avait. Mais n'oublions pas que le bon Dieu a ses voies qui ne sont pas les nôtres. Encore une fois, il ne faut pas poser trop de questions au bon Dieu. On parle toujours des victoires de Saint Jeanne d'Arc. C'est vrai, aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa victoire à Orléans. Mais il faut bien comprendre aussi que le bon Dieu se sert aussi des défaites. Humainement parlant, je dis bien humainement parlant, Saint Jeanne d'Arc a perdu. Puisqu'après les premières victoires à Orléans, elle a été trahie. Elle a été vendue aux Anglais par le prince de Luxembourg. Et elle a été condamnée par les hommes d'église en plus. À être brûlée vive sur la place du marché Rouen. Mais quand, humainement parlant, tout semblait être complètement écroulé, quand il n'y avait plus rien du tout, le 30 mai 1431, à ce moment-là, les Anglais se sont réveillés en disant « Nous avons brûlé une sainte. » Et sans aucune raison militaire, ils ont quitté le pays. Ce pays était sauvé, c'était la fin de la guerre de 100 ans. Et même bien, chers frères, c'est la même chose pour nous. Il faut comprendre que dans la mesure où nous serons des bons instruments, le bon Dieu se servira de nous, même si on ne comprend pas. Et le bon Dieu demande beaucoup. Il est dit dans le procès de Sainte Jeanne d'Arc que Sainte Jeanne d'Arc, depuis qu'elle était toute petite, avait une peur bleue du feu. Et quand elle était dans les prisons anglaises, elle avait vite compris qu'elle allait mourir. Elle serait condamnée à mort. Et elle a dit au bon Dieu, « Mon Dieu, je vous donne ma vie, je vous donne mon corps. Faites de moi ce que vous voulez. Faites-moi mourir comme vous voulez. S'il vous plaît, pas le feu. » Et devinez quoi? C'est précisément par le feu que le bon Dieu a choisi d'immoler Sainte Jeanne d'Arc. Il aurait pu choisir autre chose, par la pendaison ou qu'elle se fasse couper la tête. Non, il a choisi le feu. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'elle soit une très grande sainte. Et c'est précisément en acceptant de mourir précisément dans la situation qu'elle ne voulait pas qu'elle est devenue une grande sainte. C'est la même chose pour nous. Il faut pouvoir dire au bon Dieu, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je ne la comprends pas, même si je ne l'aime pas. » Il n'y a aucun mérite de suivre la volonté du bon Dieu quand on l'aime bien. Il n'y a aucun mérite de suivre la volonté du bon Dieu quand on comprend tout ce qu'il fait pour nous. Eh bien, le bon Dieu, il a le droit de demander des choses qu'on ne comprend pas. Il a le droit de demander des choses qu'on n'aime pas. Et un vrai catholique, celui qui veut garder la charité, c'est quelqu'un qui va dire au bon Dieu, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. » Et donc, pour résumer, ce que les féministes d'aujourd'hui ne peuvent pas supporter dans Sainte Jeanne d'Arc, c'est précisément son caractère de sainte. Elle est catholique, elle est sainte catholique. La deuxième chose, deuxième raison pour laquelle Sainte Jeanne d'Arc est tellement méprisée par tous les féministes de tout poil aujourd'hui en France, c'est que Sainte Jeanne d'Arc, c'est d'abord et avant tout l'histoire de l'union de l'Église et de l'État voulue par le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui intervient directement dans les affaires politiques françaises. Alors ça ne passe plus dans le monde actuel. Le bon Dieu avait complètement oublié le Concile Vatican II. Alors, c'est pour cela que Sainte Jeanne d'Arc est tellement détestée dans le monde moderne. Le nombre de gens qui nous disent « Sainte Jeanne d'Arc n'est pas de ma paroisse. » Sainte Jeanne d'Arc n'est pas de ma paroisse parce que, justement, c'est l'intervention directe du bon Dieu dans les affaires politiques de France. Et il paraît, disent les modernes, que l'Église n'a rien à faire avec la politique. Eh bien, justement, en méditant l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, nous comprenons pourquoi l'Église a demandé, toujours demandé, à ce qu'il y ait une union étroite entre l'Église et l'État. Et l'Église a condamné très fermement ceux qui disent que l'Église et l'État doivent être séparés. Si vous prenez un des plus grands textes du magistère de l'Église, c'est le syllabus de Pie IX, 1864, la continuation de l'encyclique Quanta Cura. La proposition 50, vous verrez la proposition 50 qui est condamnée par l'Église, il y a une liste de 80 ou 90 propositions condamnées par l'Église, la proposition 50 condamnée par l'Église se lit ainsi, l'Église doit être séparée de l'État, c'est condamné par l'Église. Il est évident que l'Église et l'État doivent être unis, comme le corps et l'âme sont unis. Et évidemment, dans le monde moderne, ça ne passe plus. Alors il faut utiliser justement toutes ces choses que le monde moderne ne comprend plus, pour précisément pour étudier ces choses davantage et s'en convaincre. Je crois que la méditation sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc doit nous aider à nous convaincre que l'Église et l'État doivent être unis. C'est que beaucoup de nos fidèles, parfois même, ont du mal à comprendre. Ils disent, même monsieur l'abbé, il ferait bien mieux qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État, avec l'Église de Vatican II, bien sûr, mais pas avec l'Église catholique. Avec l'Église catholique, il faut une union entre l'Église catholique et l'État, quel qu'il soit. Parce que s'il n'y a pas d'union, c'est comme si on sépare un corps et une âme. Et si on sépare le corps de l'âme, pour un individu, il se retrouve en difficulté majeure, il est mort. Il se retrouve au cimetière. Alors il faut demander à mon Dieu de comprendre toutes ces choses. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ce qu'on entend parfois aujourd'hui, même de la bouche parfois malheureusement de catholiques traditionnels, qui nous disent qu'il faut une séparation entre l'Église et l'État. Alors par exemple, pour savoir si on accepte l'avortement ou le divorce ou la pornographie dans un pays, ça dépend de la politique, mes bien chers frères. Ça dépend de la politique. Et si je dis qu'il faut séparer l'Église et l'État, ça veut dire que l'Église n'a plus rien à dire contre le divorce, contre la pornographie ou contre l'avortement. L'Église a et doit dire quelque chose sur tout ce sujet, précisément parce que l'Église doit mener l'État vers le bon Dieu. Je crois que le troisième motif pour lequel le monde moderne déteste Sainte Jeanne d'Arc, c'est que Sainte Jeanne d'Arc nous montre aussi l'importance de la vie intérieure. Les gens veulent bien de l'action, ils demandent de l'action. Mais ils ne se rendent pas compte et ne comprennent pas que plus une âme plus une personne est active, plus il faut contrebalancer l'action par la contemplation. Malheur à celui qui veut devenir homme d'action sans être d'abord un homme de contemplation. On voit très bien l'histoire de l'Église que les grands actifs, les grands saints actifs de l'Église catholique étaient d'abord des grands contemplatifs. Pour cela qu'au début de l'histoire de l'Église, très souvent, l'Église, pour nommer un pape, rechercher un pape, aller chercher un moine dans son couvent, parce qu'il était d'abord un contemplatif. Et le contemplatif qu'il était, il devenait actif tout en restant contemplatif. Donc posons-nous cette question, est-ce que j'ai l'âme contemplative? Est-ce que je comprends l'importance de la vie intérieure? Est-ce que j'ai cette vie intérieure? Une personne qui n'a pas de vie intérieure ne doit pas même penser à pouvoir faire de l'action. De l'action catholique, la véritable action catholique. Au contraire, celui qui a une vie intérieure, celui qui sait s'agenouiller devant le bon Dieu, se remplir du bon Dieu par la vie de raison, celui-là, oui, aura le droit de devenir un homme d'action. On le voit très bien dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Le bon Dieu n'est pas allé chercher Sainte Jeanne d'Arc et la prise telle qu'elle était, il l'a formée d'abord. Pendant plusieurs années, presque 3 ans, il l'a formée par ses voies. Qu'est-ce qu'on fait Sainte Marguerite? Qu'est-ce qu'on fait Sainte Catherine et Saint Michel? Avec ces petites bergères qu'ils allaient voir alors qu'elles gardaient ses troupeaux et filaient la quenouille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont appris à prier, ils lui ont appris à méditer, ils lui ont appris à devenir une âme de contemplation. Pardon. Et une fois qu'elle est devenue contemplative, une fois qu'elle avait compris l'importance de la vie de raison, alors le bon Dieu est venu la chercher et l'amener par vos couleurs jusqu'à la porte d'Orléans pour qu'elle prenne la ville. Vous voyez, c'est un peu notre histoire à nous aussi. Donc posez-nous la question, est-ce que je comprends l'importance de la vie de prière? Est-ce que je prie avec plaisir ou est-ce que je prie simplement par obligation? Je fais ma prière du matin, ma prière du soir, je dis même mon chapelet parce qu'il faut le dire et puis c'est tout. Est-ce que j'ai l'amour de la prière? Est-ce que j'ai su transférer à mes enfants l'amour de la prière? Est-ce que je comprends que sans prière, je ne peux pas être en communication avec le bon Dieu et j'ai besoin du bon Dieu pour pouvoir survivre dans mon âme tout simplement? Eh bien, chers frères, tout ce qu'il faut demander à Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui, il faut lui demander justement toutes ces grâces dont nous avons besoin. Elle est au ciel, et puisqu'elle est patronne secondaire de la France, elle doit veiller sur le pays. Et elle voit ce pays dans bien triste état. Rappelez-vous ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marie-Madeleine, « Va, fille de Dieu, car mon royaume est en triste état. » Mais il est sûr qu'aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc doit intervenir auprès du bon Dieu en disant, regardez ce qui reste de la France, mon Dieu. La France est en triste état, faites quelque chose, envoyez quelque chose, envoyez quelqu'un. Mais pour pouvoir envoyer quelqu'un, il faut encore qu'il y ait quelqu'un envoyé. Donc il faut des instruments. Devenez des instruments, bien chers frères. Devenons tous des instruments du bon Dieu. Devenons des âmes intérieures, devenons des âmes contemplatives. Vivons dans la pureté, vivons dans la foi, l'espérance et la charité. Et par-dessus tout, bien sûr, gardons l'état de grâce. Puisque c'est la première condition pour être un instrument. Alors le bon Dieu pourra aller chercher un instrument, sans doute le plus faible qu'il puisse trouver, et de cet instrument, et avec l'humilité de cet instrument, il va vaincre l'orgueil du monde moderne. Parce que plus un instrument est faible, plus il est humble. Et plus il y a de vertu d'humilité, plus cette vertu d'humilité est forte pour pouvoir justement bloquer l'orgueil. Même dit, même chez l'abbé aujourd'hui, la situation est encore pire, puisqu'il n'y a plus de pape, on n'a plus d'autorité, nous sommes orphelins d'autorité, alors que faire? Nous avons devant nous un énorme rouleau compresseur qui écrase tout, qu'est-ce qu'on va faire? Mais un rouleau compresseur, ça se bloque. Comment? Une toute petite pierre qu'on coince entre deux rouages, c'est fini. Le rouleau compresseur ne peut rien faire, c'est une espèce d'énorme système d'engrenage qui se bougent les uns les autres, c'est une toute petite pierre coincée entre deux engrenages, c'est fini, tout s'arrête. Eh bien, mes bien chers frères, avec la grâce du bon Dieu, vous et moi, nous pouvons être cette petite pierre. Le petit caillou que le bon Dieu peut utiliser pour bloquer l'engrenage de la révolution. Alors ce sont les grâces que nous allons demander aujourd'hui au cours de Sainte Messe. Demandons à ta Sainte Vierge Marie, demandons à Sainte Jeanne d'Arc que nous fêtons aujourd'hui, justement d'être nous aussi des vaillants défenseurs de notre pays, des vaillants défenseurs de notre foi, pour que le bon Dieu puisse nous utiliser comme il l'entend, quand il le veut et comme il le veut, pour que nous soyons des instruments du salut de notre pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.